Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Lundi dernier, les fonctionnaires de l'Organisation mondiale du commerce ont vu débarquer à Genève leur nouvelle directrice générale. Il s'agit de la Nigériane Gozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances de son pays. Après un très long parcours à la Banque mondiale, la nouvelle patronne de l'OMC arrive alors que le commerce mondial connaît depuis un an une secousse sans précédent, conséquence de la pandémie de Covid-19. Les échanges internationaux ont-ils retrouvé leur niveau d'avant-pandémie? L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche va-t-elle calmer le jeu avec la Chine? Celle-ci avance-t-elle toujours ses pions dans le commerce mondial? L'OMC, enfin, sert-elle encore à quelque chose? Voilà quelques-unes des questions qui seront soulevées au cours de cette émission avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous êtes le directeur du CEPI, le principal centre de recherche et d'études en économie internationale en France. Vous êtes par ailleurs directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous êtes en studio. Alors que nous avons au téléphone un second invité, Sébastien Breteau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Sébastien Breteau, vous êtes le fondateur et le PDG de la société Qima, qui s'appelle QIMA, pour ceux qui ne la connaissent pas, société de contrôle qualité des produits de grande consommation et des produits alimentaires qui sont échangés dans le monde. Le siège de votre entreprise est à Hong Kong, mais vous intervenez dans 85 pays grâce à plus de 3000 inspecteurs. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr. Nous irons au Havre en fin d'émission avec Alexis Bédu, à Nairobi au Kenya avec Charlotte Simonard et à Kuala Lumpur en Malaisie avec Gabriel Maréchaux. Avant de vous donner la parole, messieurs, on va commencer d'emblée par un reportage. Mombasa au Kenya est le port le plus important d'Afrique de l'Est avec, bon an mal an, un trafic d'environ 1 million de conteneurs. En 2020, l'activité portuaire a été nettement ralentie à cause de la pandémie, mais aujourd'hui, le port de Mombasa retrouve ses volumes d'avant-crise et plus encore. Sitôt débarqués, les conteneurs sont immédiatement transférés par voie ferrée à 480 km de là, 8 heures de trajet vers un terminal de transit situé à Nairobi, la capitale kenyane. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, que nous écoutons maintenant et qui est signé Charlotte Simona.
Ce matin-là, au dépôt de conteneurs de Nairobi, on commence le déchargement des premiers trains de marchandises en provenance du port de Mombasa. Daniel Gatira, chef des opérations.
Ici, nous sommes dans la zone ferroviaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ici que l'on charge ou décharge les trains de marchandises. Nous traitons environ 8 trains par jour.
La valse des camions de marchandises s'opère alors. Certains prennent la direction de l'Ouganda, du Rwanda ou du Burundi. La pandémie mondiale n'a pas épargné l'activité portuaire de Mombasa. L'année 2020 se clôture sur une baisse des volumes, moins 4% par rapport à 2019 selon les autorités. Un bilan plombé par une chute de l'activité entre les mois de mars et juin 2020. Daniel Gatira se souvient.
À ce moment-là, on ne réceptionnait que 5 trains par jour. Le couvre-feu a beaucoup impacté nos exportations, pour les produits agricoles notamment, car les fermiers ne pouvaient livrer que dans un temps très restreint. Le confinement des villes et l'interdiction de déplacement de comté en comté a lui aussi beaucoup pesé.
Mais depuis, l'activité a repris de plus belle. De son bureau avec vue imprenable sur le dépôt de conteneurs de Nairobi, Peter Massindé, le responsable, s'en réjouit.
Depuis le mois de septembre, l'activité s'est stabilisée à 8 trains de marchandises par jour venus de Mombasa jusqu'ici à Nairobi. Et cette année, nous devrions enregistrer les mêmes performances qu'en 2019 avec des résultats encore meilleurs qu'avant la crise.
De meilleurs résultats car la demande en cargo explose depuis plusieurs mois. Une tendance qui a surpris les grands noms du transport maritime mondial, parmi lesquels le transporteur français CMA-CGM. Jean-Baptiste Longin, son directeur général en Afrique de l'Est.
Il s'est avéré qu'avec toutes ces populations qui ont été confinées, un peu bloquées, etc., on a pu observer un transfert des budgets des ménages, des loisirs, des restaurants, des sorties, des voyages, etc., vers des biens de consommation, vers la réfection de la maison, le changement de l'équipement de la famille, les vélos, etc., la voiture. Ce transfert de budget vers des biens de consommation a bénéficié les transporteurs maritimes tels que CMA.
Dans un premier temps, le port de Mombasa parvient à gérer cet afflux de conteneurs venus du monde entier, mais le voilà très vite submergé. Jean-Baptiste Longin de CMA-CGM.
En moyenne, sur les deux derniers mois, on avait entre 10 et 15 navires qui attendaient à l'ancre devant le port de Mombasa. Ça pouvait prendre parfois 6, 7, 8 jours avant que ce quai se concrétise, tellement il y avait de congestion au port. On arrivait à un goulot d'étranglement depuis début décembre jusqu'à maintenant, c'est en train de se résorber. Coût économique énorme. Pour nous, ça se chiffre en centaines de milliers de dollars toutes les semaines. Et pour nos clients, parfois même encore plus. La suractivité qui a été générée par la pandémie s'est combinée à un moment donné aussi aux difficultés structurelles du port de Mombasa.
Monopole d'État, système de gestion manuel et obsolète, conflit entre syndicats et direction. La pandémie aura mis un peu plus en lumière les problèmes structurels du port de Mombasa. Un port dont le potentiel de développement est largement sous-exploité aujourd'hui, alors que les pays de la région affichent des taux de croissance de plus de 5% par an.
Un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Charlotte Simonard. Sébastien Breteau, ce quotidien des affréteurs, des dockers que décrit Charlotte Simonard, c'est aussi le vôtre. Vous êtes aux prises avec ces difficultés d'approvisionnement, ce ralentissement. Qu'est-ce que vous avez vécu au cours de l'année 2020?
Il y a eu bien sûr beaucoup de chambardements avec d'abord les usines qui se sont fermées en Chine en février, janvier, février, mars. Nous, effectivement, c'est tombé d'un coup en avril. On avait moins 35% de chiffre d'affaires. En mai, moins 30%. Et juin, moins 7, et on est repassé positif à partir de juillet. Donc en fait, c'est remonté beaucoup plus vite qu'on pensait grâce au redémarrage de la Chine. Après, on s'est aussi adapté. On s'est aussi adapté parce qu'on a eu des conséquences toutes simples, qui sont que, par exemple, les inspecteurs ou les auditeurs n'étaient plus les bienvenus dans les usines. À partir du moment où on n'avait pas à l'époque, il n'y avait pas encore de tests ou de date au téléphone qui permettait de vous faire entrer. Et donc, on a mis en place des inspections et des audits virtuels par vidéo. Avec les usines et les fermes dans lesquelles on opère.
Alors, on va préciser donc que votre entreprise examine et garantit la qualité des chargements qui sont expédiés ou reçus, c'est ça ?
C'est ça, c'est qu'on fait le contrôle de qualité des produits, la certification lorsqu'ils sont réglementés, les tests en laboratoire, mais dans les cas que j'évoquais, on audite les usines ou les fermes, par exemple, savoir si les conditions sociales, les conditions d'éthique, les conditions de pollution, les conditions organiques pour les fermes, et les produits pour savoir s'ils sont conformes. Et donc, en fait, on opère physiquement dans les lieux de production, et ce qui fait que la pandémie a bien sûr compliqué les choses de manière significative. Mais ça a rebondi très vite.
Sébastien Jean, ce qui est décrit là, d'abord dans le reportage au niveau du continent africain, une baisse nette et puis un rebond, et puis ce que dit Sébastien Breteau, une baisse de 30-35% au mi-temps de l'année 2020, puis un rebond très fort, c'est ce qu'on observe globalement dans le commerce mondial ?
Oui, c'est une année folle, c'est une année de douche écossaise sur le commerce parce que ça a été bien décrit. Et il y a eu des fluctuations à la fois complètement imprévisibles et d'une violence, d'une soudaineté extrême. Et aussi bien dans la chute initiale, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'arrête, donc en Chine, puis en Europe, dans les préoccupations que ça engendre. Il faut se souvenir qu'il y a eu des épisodes de crise paroxystique avec, par exemple, les interdictions la crainte, la peur de manquer de masques et d'équipements de protection, et même le constat d'ailleurs qu'on en manquait, les interdictions d'exportation, même au sein de l'Union européenne, l'épisode du mois d'avril où il y a eu des craintes sur l'approvisionnement en nourriture, en produits alimentaires au niveau mondial, avec là également des interdictions d'exportation de la part de grands exportateurs, par exemple le Vietnam sur le riz ou la Russie sur le blé, donc des épisodes de panique en fait, hein, de début de panique. Et puis tout d'un coup, comme ça vient d'être dit, une remontée à partir du moments à partir du début de l'été qui a été beaucoup plus soudaine que ce qu'on avait pensé. Et puis de nouveau douche froide à l'automne quand on s'aperçoit que l'épidémie revient plus vite que on ne pense. Donc elle revient, elle perturbe d'une façon différente, mais on va y revenir, je pense, mais elle perturbe encore très nettement. Et donc ça correspond à, c'est les montagnes russes et ça rend extrêmement difficile de prévoir et de planifier l'organisation. Or, le domaine du commerce international, c'est un domaine de logistique, d'une mécanique extrêmement bien huilée et qui a besoin de cette anticipation pour fonctionner correctement. Donc ça explique toutes ces perturbations dans le fonctionnement et ça explique que on se retrouve avec des phénomènes, notamment de files d'attente qui étaient absolument inhabituels, de pénurie de containers parce qu'ils sont pas utilisés dans les délais normaux parce que du coup ils se trouvent pas là où il faudrait qu'ils soient, etc.
Mais quand Charlotte Simonard et ses interlocuteurs à Nairobi nous disent moins 4% de baisse de la circulation des marchandises sur le port de Mombasa, c'est somme toute modeste comme baisse sur l'année 2020.
C'est plutôt bien par rapport à la moyenne, j'allais dire. Les chiffres définitifs ne sont pas connus et d'après les différentes sources, il me semble qu'ils vont être autour de moins 7 à moins 8% pour le commerce mondial en volume sur l'année. Donc, effectivement, Mombasa fait un petit peu mieux par rapport à ça.
Mais 7 à 8%, c'est en ligne avec la baisse de l'activité mondiale. Ma question, c'est quel est le rôle du commerce mondial, du commerce maritime mondial, dans l'économie internationale ?
Alors, c'est une crise très atypique, hein, parce que elle est de nature exogène, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce sont les mesures prises pour endiguer l'épidémie qui paralysent l'économie. Et en plus, elle la paralyse d'une façon très particulière parce que, en particulier, dans un premier temps, beaucoup de choses ont été paralysées, puis dans un second temps, on a réussi à s'organiser pour maintenir la production de biens, et c'est surtout la production de services qui est restée paralysée. Mais tout au long de cette crise, la caractéristique très atypique, c'est que les services ont plus subi la crise que l'industrie, pour faire simple. Or, d'habitude, c'est exactement le contraire. Pourquoi ? Parce que quand il y a une crise, par exemple la crise financière de 2008, mais c'est le cas pour l'ensemble des crises, ce qui subit le plus le creux de la crise, c'est la production de biens, parce que les biens sont stockables et parce que les biens, c'est l'investissement. Or, quand il y a une période comme ça très difficile à passer d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on repousse les dépenses. Donc, si les dépenses, les achats de biens durables, par exemple, mon achat de voiture ou d'équipement électroménager, que sais-je, et puis pour l'entreprise, l'investissement, tout ça, c'est des produits. Donc, ça veut dire que ce sont les produits, les marchandises qui baissent plus que le reste. Et ça explique qu'on constate en moyenne, si vous voulez, sur la dernière décennie, que le commerce est trois fois plus cyclique que le PIB. Quand il y a un creux cyclique, ce creux est trois fois plus marqué pour le commerce que pour l'activité. Pendant la crise financière en 2009, il y a même eu un rapport de 4. La baisse du commerce était 4 fois plus marquée que celle du PIB. Là, dans la crise qu'on a connue cette année, ce rapport est plus limité. Le commerce a seulement, entre guillemets, plongé 2 fois plus que l'activité parce que c'est surtout les services qui étaient touchés et que les services sont moins concernés par le commerce. Donc c'est assez atypique.
Vous confirmez, Sébastien Breton ?
Je confirme les chiffres. Peut-être une précision sur les services qui sont, selon Sébastien Jean, plus touchés que la production. Il y a aussi une ligne digitale et les services qui ont pu se digitaliser, il y en a quand même beaucoup, eux se sont très bien maintenus, voire se sont développés. Et nous, par exemple, on est une société où on a 45 bureaux dans le monde, 4000 collaborateurs qui finalement, historiquement, bien avant la pandémie, travaillaient déjà ensemble à distance. Et nos inspecteurs et nos auditeurs sont aussi à distance. Finalement, avec des outils de vidéo-call, des outils des softwares qui soutiennent l'activité, qui passent les checklists, les protocoles, on a réussi, en fait, à exister quelque part en dehors du monde physique ou avancer. Il y a beaucoup de services qui ont quand même bien marché. Ceux qui étaient soit prêts et bien sûr qui étaient capables de le faire. Mais on voit même, et c'est valable sur tout un tas de services, même les médecins ou même les banquiers se sont mis à envoyer des emails à leurs clients, les médecins se sont mis à faire des vidéocalls avec les clients, donc c'est pour donner des exemples que tout le monde comprend. Donc je confirme la vision que comme quoi la production n'a pas subi tant de dommages que ça, mais il y a des services qui ont quand même très bien marché.
Sébastien Jean, vous disiez tout à l'heure que le commerce international, c'était une logistique de précision, en fait. C'est quelque chose de très huilé. Mais malgré tout, c'est très compliqué à comprendre ça. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce que c'est que cette logistique? Et puis je demanderai à Sébastien Breteau d'ajouter après sa description.
Bon, à grands traits, c'est une circulation de dimensions assez titanesques une très grande complexité de dizaines de milliers de containers, de bateaux qui traversent le monde avec le besoin d'ajuster au plus près la disponibilité aux besoins. Et donc, ça veut dire à la fois l'ajuster quantitativement, mais aussi avoir un ajustement entre le lieu où se trouvent les bateaux, les containers et les besoins des clients. Donc, ça demande beaucoup d'anticipation. Ça demande une organisation extrêmement fluide. Et puis, la rentabilité économique, elle dépend de la capacité aussi à opérer ces opérations en flux relativement tendu. Et ça explique une partie de la pénurie qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les containers, parce qu'il y a des délais qui sont inhabituels. Donc si un bateau attend une semaine avant de décharger sur le port, eh bien, ça veut dire que les conteneurs restent immobilisés une semaine avant de pouvoir être utilisés de nouveau, et du coup ils manquent. Qui plus est, on a besoin de... C'est un flux circulaire, si vous voulez. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des très fortes asymétries. Donc tout d'un coup, au début de l'année, la Chine ne produisait plus, on n'exportait plus, donc il y avait plus de bateaux qui circulaient de la Chine vers les États-Unis ou l'Europe, par exemple, ou beaucoup moins. Et puis, tout d'un coup, au printemps, c'est le contraire qui est advenu. Mais à ce moment-là, les bateaux n'étaient plus là où on avait besoin d'eux. Ils n'étaient plus en Chine, par exemple. En fin d'année, au contraire, à partir du milieu de l'année, en tout cas, on avait une forte reprise de la demande, en tout cas, de marchandises aux États-Unis. Donc, des flux d'exportation de la Chine vers les États-Unis, notamment, puis après vers l'Europe aussi, qui ont repris de façon très dynamique. Mais dans l'autre sens, beaucoup moins. Donc on a une très grande asymétrie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin, il y a un énorme besoin, il y a une énorme tension sur la disponibilité de conteneurs pour aller exporter de Chine vers l'Europe en particulier, vers le Pacifique, côté Pacifique aussi, vers les États-Unis. Et dans l'autre sens, beaucoup moins. Donc ça rend la gestion très délicate.
Sébastien Breteau, vous avez une longue expérience du commerce international. Depuis quand est-ce que les conteneurs ont ce rôle crucial dans nos échanges internationaux?
Vous
êtes trop jeune, vous allez me dire.
Je pense que c'est ça. Mais en fait, c'est effectivement un des éléments clés du commerce international. J'ai une anecdote aussi sur ça. À Hong Kong, qui était avant que ça parte de Chine, mais qui était un des ports les plus avancés, les points de passage oubliés du commerce extérieur, du commerce international, il y a encore 15-20 ans, je me souviens, quand j'habitais là-bas, on regardait partir les conteneurs, et en fait, selon le niveau de flottaison de la ligne des conteneurs, on savait en fait si on avait un indicateur avancé du commerce international. Et par exemple, pendant la crise de 2009, je me souviens très bien avoir vu des conteneurs repartir de Chine à vide et de la ligne de flottaison très haute. Et quelque part, le conteneur, c'est la symbolique physique du commerce international.
Vous voulez dire le porte-conteneur, c'est le baromètre, selon qu'il s'enfonce plus ou moins dans
absolument.
La ligne de flottaison, absolument. Est plus ou moins haute ou basse, ça veut dire que le commerce se porte plus ou moins bien.
Alors, à Hong Kong, parce qu'il y a les économistes et tout ça, bien sûr, regardez toutes les statistiques pour essayer de voir l'impact de la crise de 2008-2009, et en fait, on avait des indicateurs avancés. Et quand ces conteneurs qui repartent de Chine sont à nouveau pleins, on sait beaucoup plus tôt que le commerce international repart. En ce moment, on vit une crise sans précédent du transport maritime. Les prix ont été multipliés par 3 ou 4 des conteneurs.
Ouais.
Et par exemple, pour vous donner un chiffre, mais vous avez IKEA qui considère que 10% de ses produits sont affectés aujourd'hui par la crise des conteneurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être capables de les mettre sur les étalages.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du commerce international avec deux invités, Sébastien Jean, qui est ici en studio, qui est directeur du CEPI, directeur de recherche à l'INRAE, et Sébastien Breteau, le PDG de la société Kima. On va tout de suite partir au Havre, puisque vous parlez conteneurs. On a évoqué tout au long de l'émission, depuis le début, ce rebond, ces baisses du commerce international. L'une des manifestations de ce rebond, vous l'avez souligné, enfin des difficultés, c'est ce qui se passe sur les ports. Les ports où l'on a l'habitude de voir s'aligner des kilomètres de conteneurs, mais aujourd'hui, ces grosses boîtes s'arrachent car elles viennent à manquer et leur prix explose jusqu'à 13 000 $ pour un conteneur de 40 pieds. Les taux de fret maritime se sont envolés ces derniers mois. Au port du Havre également, cette flambée des prix sans précédent a des répercussions. Écoutez ce reportage Éco-d'ici, Éco d'ailleurs, signé Alexis Bédu.
Le soleil après l'averse, ici on est à l'entrée du port du Havre avec Patrick Maletra de la société Tramar, une société qui est transitaire. Quel est votre métier ?
C'est de gérer des flux de marchandises depuis tout point du monde jusqu'en France ou depuis la France sur tout point du monde. On s'occupe des douanes à l'exportation, des douanes à l'importation. Ensuite, après, on stocke les marchandises, on les prépare, on prépare les commandes et on les distribue sur les différents clients français ou même européens.
Au Havre, les transitaires sont les plus impactés par l'envolée des taux de fret maritime. Il n'y a pas assez de place pour le transport des marchandises, les conteneurs étant devenus denrées rares. Cela occasionne de lourds retards pour certains clients. En plus de ça, chez Tramar, chaque mois, entre 150 et 200 conteneurs n'embarquent pas à cause de taux de fret trop élevés. Les clients préfèrent reporter leurs importations, explique Patrick Maletra.
Par exemple, les litières pour chats sont fabriquées en France, mais avec des produits qui sont importés. Ces produits ont des valeurs basses et ne peuvent pas supporter de telles augmentations. Donc là, le client va tirer dans ses stocks. À un moment donné, il va peut-être être en pénurie de marchandises, mais pour lui, c'est du stade de l'invendable quand il cumule le montant des taux de fret qui sont actuellement à leur top, hein, 13 000 $ pour un 40 pieds à un certain moment. Aujourd'hui, on tourne entre 9 000 et 10 000, alors qu'il y a encore 4-5 mois, on était à 1 600 $ le 40 pieds. On est tout de suite à 6 fois la mise. Ce qui fait que, évidemment, c'est le produit qu'il supporte, c'est la marchandise qui supporte tout ça.
Au bout du compte, ce sont les consommateurs qui paieront le prix de cette augmentation. Au Havre, la congestion du port est limitée. Mais la pandémie mondiale a enrayé la machine et cela pourrait durer.
Bonjour.
Bonjour.
Alexis.
C'est ça.
Bonjour, je m'appelle Yann Alix, je suis le délégué général d'une fondation qui s'appelle la Fondation C'est Facile, qui est un laboratoire d'idées prospectives et stratégiques sur les mondes maritimes, portuaires et logistiques.
Le coût de transport pourrait être sur le long terme bien plus important qu'il ne l'a été. Alors les tarifs d'avant Covid étaient-ils sacrifiés ? S'agit-il d'un ajustement par le haut en faveur des compagnies maritimes ?
On a souvent l'habitude de dire, quand vous consommez une bouteille de Perrier sur la 5e avenue, le coût de transport il est de moins de 10 centimes. Effectivement, le transport était dérisoire. Est-ce qu'il le sera demain ? Je ne suis pas sûr que finalement on va revenir à la normale d'avoir des taux de fret qui soient si faibles. Par contre, on a déjà des conséquences, notamment sur les économies émergentes, encore une fois. Les exportateurs de bois tropicaux, par exemple, dans la zone du bassin Congo, n'ont plus de 40 pieds à disposition pour aller envoyer leurs marchandises en Chine ou en Asie du Sud-Est. Quel sera l'impact demain sur certains produits de l'agrobusiness, par exemple, d'exportation ? Je sais qu'au Havre, on a une pénurie de conteneurs reefers aujourd'hui pour l'exportation de produits agro-business.
Au milieu de ces bouleversements, les grandes gagnantes, ce sont les compagnies maritimes. Le plus gros des armateurs français, CMA-CGM, investit d'ailleurs en ce moment même dans le fret aérien.
Un reportage signé Alexis Bédu au Havre. Voilà un reportage qui est au cœur de vos préoccupations à tous les deux, Sébastien Jean. D'abord, on peut préciser ce que c'est qu'un conteneur 40 pieds ?
Oui, c'est la longueur standard, il y a les 20 pieds et les 40 pieds. Donc,
40 pieds, c'est quoi ? C'est 12 mètres ?
C'est environ 12 mètres, oui.
Voilà,
c'est la longueur standard et l'un des gros gains, l'innovation majeure justement des conteneurs, c'est la standardisation. Hein, c'est-à-dire ce qui a été à l'origine de gains immenses en termes de facilité de manipulation, en termes de coûts d'assurance notamment. On compte les boîtes. Et ce qui se passe, c'est que, étant donné ce qu'on a décrit, c'est-à-dire des flux très asymétriques, très hétérogènes, très difficiles à anticiper, des lenteurs, des paralysies sur les ports, dans les usines parfois, on se retrouve face à une pénurie de conteneurs. Or, ça ne se fait pas un claquement de doigts d'ajuster l'offre de conteneurs. D'autant d'ailleurs que cette année, elle a plutôt baissé, parce qu'en fait, il y en a plus qui sont allés au rebut que de conteneurs qui ont été produits de nouveau. Et notamment au début de l'année, quand il y a eu la crise, on a un peu tout arrêté. Donc, il faut quelque temps pour s'ajuster. Moi, personnellement, je n'extrapole pas la crise actuelle, présente, au long terme, parce que c'est le genre de congestion qu'on connaît sur les marchés internationaux, par exemple, dans l'alimentaire aussi. L'offre ne peut pas s'ajuster à court terme. Donc, quand il y a un problème comme ça, le désajustement un peu significatif entre l'offre et la demande, c'est difficile à gérer. Ça crée des évolutions très soudaines de prix, mais en général, elles sont quand même passagères. Voilà. Donc, je ne veux pas m'avancer pour faire une prospective de long terme. Il y a d'autres éléments qui rentrent en œuvre. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans une crise paroxystique qui va durer quelques mois, probablement. Hein, mais ce n'est pas, à mon avis, un déterminant de long terme. Parce qu'après, si on veut ajuster l'offre à la hausse, sur les conteneurs ou sur les bateaux, si on le voulait d'ailleurs, c'est tout à fait possible.
Mais quand cet interlocuteur rencontré par Alexis Bédu au Havre dit que les pays émergents sont les principales victimes, en quelque sorte, de cette situation, c'est une réalité ?
C'est une situation difficile pour tout le monde, et dans ces cas-là, évidemment, ce sont ceux qui ont le moins de marge de manœuvre, de degré de liberté pour s'ajuster, qui en souffrent le plus. Donc oui, effectivement, évidemment, c'est surtout dommageable aux pays en développement, d'autant que l'augmentation du fret maritime, c'est surtout un problème pour les denrées qui n'ont pas une valeur unitaire, enfin une valeur par unité de volume qui est très élevée, ce que disait monsieur à propos des liquaires pour chats.
Sébastien Breteau, vous certifiez la qualité des produits d'alimentation, des produits alimentaires qui sont importés ou exportés. Cette difficulté pour les pays émergents, vous la constatez ?
On la constate. Alors, nous, on opère pas mal en Amérique du Sud. Et on a constaté, évidemment, un ralentissement des échanges. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne pouvaient pas arriver à temps. C'est des produits qui sont par définition périmables. Mais on a constaté, par exemple, au Chili, des productions entières de myrtilles qui, en fait, sont restées dans les champs et n'ont pu arriver aux États-Unis, par exemple, qui était le principal produit d'exportation. Et dans ce cas-là, il y a eu des gaspillages colossaux de denrées alimentaires. Et donc, bien évidemment, les pays exportateurs ont été les premières victimes. Pour les conteneurs, je partage l'avis de Sébastien Jean, au sens que c'est quand même conjoncturel. La réalité, c'est que les prix sont très élevés aujourd'hui. Et en fait, quelque part, le client paie très cher un conteneur parce qu'il va payer le retour à vide. Et donc, il faut bien que quelqu'un paye sur ça. Je pense que c'est une affaire de quelques mois. Il y a 180 millions de conteneurs sur la planète. C'est 3-4 mois, en fait. Alors, bien sûr, les compagnies maritimes en profitent, et dans le prix, la hausse de prix, je pense qu'elle est un petit peu disproportionnée, c'est qu'on paye une partie du fait que les conteneurs rentrent à vide, mais on paye aussi le profit qu'ils n'ont pas pu réaliser, donc ils se rattrapent un petit peu. On constate aussi ça.
Alors, en matière de commerce international, il y a un facteur purement économique, mais il y a aussi des facteurs politiques. Sébastien Jean, est-ce que les mutations auxquelles on assiste, ponctuellement le départ de Trump et l'arrivée de Biden, est-ce que c'est un élément d'apaisement pour ces problèmes de circulation des conteneurs, pour mettre les choses un peu caricaturalement? Est-ce que le fait que Biden soit au pouvoir va faire que les conteneurs vont circuler plus facilement?
Dans la crise de court terme dont on est en train de parler, je crois que ça ne va pas changer grand-chose. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a des questions de logistique, d'organisation, d'adaptation. Il y a aussi des délais d'ajustement qui sont incompressibles. C'est plutôt dans les politiques de long terme que les choses peuvent évoluer. Maintenant, il faut... je pense que sur le fond... il y avait un personnage Trump qui était particulièrement atypique, particulièrement répugnant d'ailleurs sur un certain nombre de repoussants sur un certain nombre d'aspects. Mais sur le fond, il y a une continuité sur beaucoup de points, je pense, entre la vision de la politique commerciale en termes d'objectifs finaux qui va être celle de l'administration Biden, même si elle n'est pas complètement formulée, pas complètement développée cette vision, et celle qui était la vision de Donald Trump, c'est-à-dire quand même un désenchantement, si j'ose dire, très fort par rapport à la mondialisation, une désillusion par rapport aux gains qu'on peut en attendre, beaucoup de pragmatisme et une volonté de rééquilibrage fort par rapport à la Chine, une vision de plus en plus de la mondialisation comme un jeu à somme nulle dans laquelle les États-Unis ont perdu beaucoup. Donc il y a une volonté de confrontation, notamment par rapport à la Chine, qui, je pense, va être plutôt dans la continuité sous Biden de ce qu'on a connu avec Trump. Espérons, c'est plutôt l'affichage qu'il y a jusqu'à maintenant, mais il faudra voir comment ça se concrétise, que ça se fera en tout cas en meilleure coordination avec l'Europe.
Mais est-ce que la récente décision du gouvernement américain, par exemple, d'augmenter des taxes anti-dumping sur l'aluminium venant de 18 pays, dont l'Italie, l'Inde, l'Allemagne, est-ce que ça laisse augurer d'un ton toujours assez dur de la diplomatie et du Trésor américain ?
Je crois que ça illustre justement une vision très pragmatique et très méfiante au fond des questions de commerce international, une volonté farouche de défendre pied à pied et s'il faut de manière assez agressive leurs intérêts. Donc là-dessus, et le discours de la campagne ne laissait pas tellement de doutes là-dessus. Hein. Donc on a vraiment changé de période par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a une vingtaine d'années. Voilà, maintenant, ce qu'a dit également clairement Biden dans sa campagne, c'est qu'il y a une volonté d'être dans un système quand même gouverné par des règles, ce que Trump refusait complètement, et d'essayer de les faire évoluer en coordination avec ses alliés en particulier, ce qui n'était pas non plus le cas de Trump précédemment. Donc je pense que ça augure au moins de stratégies un peu différentes pour essayer de parvenir à leur fin.
Qui passeront par l'OMC, par l'Organisation mondiale du commerce, ces stratégies ?
Qui vont tenter de faire passer par l'OMC, oui, c'est la volonté qui est affichée. Et je pense qu'ils sont en même temps bien conscients de la difficulté de l'exercice, parce que on est dans une configuration qu'on n'a pas vraiment connu précédemment. C'est-à-dire qu'il faut organiser la concurrence internationale sur des bases reconnues comme équitables par tous entre des systèmes qui sont différents et qui vont le rester. Quand on a négocié dans les années 90 l'entrée de la Chine à l'OMC, il y avait cette vision que la Chine était dans un processus de convergence vers un fonctionnement d'économie de marché, que certes ça prendrait du temps, donc il fallait leur laisser des délais, des périodes d'ajustement, mais qu'ensuite on allait vers une convergence. Aujourd'hui, je crois que cette hypothèse, elle est clairement invalidée. Il n'y a plus de convergence. La Chine est dans un système différent et le restera. Et même peut-être, la différence peut s'accroître, est en train de s'accroître même, je crois, par certains aspects. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise la concurrence au niveau international entre des économies de marché sociales, on peut dire, dans le cas européen, ou économies de marché tout court dans le cas américain, enfin des vraies économies de marché, et un capitalisme d'État à la chinoise qui a des mécanismes de marché dans son fonctionnement. Évidemment, mais qui est quand même très différent parce qu'il y a une coordination de l'activité économique par le parti et par l'État qui est très forte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les règles de l'OMC ne permettent pas complètement
de prendre en compte
et d'assurer les partenaires que sont l'Europe et les États-Unis, mais aussi les autres pays, qui sont dans une situation de concurrence équitable et qui pourront, par exemple, éviter d'être les variables d'ajustement de la politique industrielle chinoise.
Donc la directrice générale, Okonjo-Iweala, elle va avoir un gros boulot.
Elle a effectivement un immense défi face à elle. Bon, il commence déjà ce défi par montrer que l'OMC est utile et peut être utile vraiment dans la gestion de la crise sanitaire, hein, parce que c'est ça quand même l'urgence d'aujourd'hui. Et puis après, il y a effectivement un défi d'une réforme systémique de grande ampleur dont l'organisation a été incapable depuis 25 ans, depuis 1995. C'est quand même ça le fond de l'affaire.
Sébastien Breteau, est-ce que l'homme d'affaires que vous êtes, l'entrepreneur, celui qui a les mains dans le cambouis du commerce international d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il se sent concerné par ces enjeux-là, par ce qui se passe entre Washington et Pékin, par tout ce que vient d'expliquer Sébastien Jean ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, je rejoins Sébastien Jean sur l'analyse qu'en fait, fondamentalement, la politique, elle va peut-être changer sur les formes vis-à-vis de la Chine. Et les Américains vont toujours avoir une politique peut-être moins confrontationnelle, mais de défense de leurs intérêts. Je rajoutais qu'il y a des choses qui ont émergé avec la trade war, avec la guerre commerciale de Donald Trump, et qui en fait ont conduit à une diversification des sources d'approvisionnement, parce que les Américains vont être moins dépendants de la Chine. Et nous, on a constaté depuis 4-5 ans un changement de zone de sourcing vers le Vietnam, le Bangladesh, un peu le Cambodge, aussi au Mexique depuis les comptes américains. Et ça, je pense que ça va continuer sous Biden aussi, qui fait dont l'administration semble privilégier davantage le multilatéralisme. Et donc, en fait, d'un point de vue américain, avoir diversifié ses sources d'approvisionnement, on le voit aussi chez les grands groupes, je pense que c'est quelque chose qui a commencé, qui va continuer. Et on voit l'émergence très forte d'un pays, par exemple, comme le Vietnam. Alors aujourd'hui, le Vietnam, c'est 14 millions de travailleurs contre 110 millions en Chine. Mais c'est une force de production. C'est un pays qui a su très très bien gérer aussi la pandémie et qui va certainement faire partie des pays qui vont sortir vainqueurs, ou en tout cas qui vont sortir encore renforcés de cet épisode de la guerre commerciale puis de la pandémie, et ensuite des politiques de l'administration Biden qui ne changeront pas la pression qu'ils vont mettre sur les produits chinois.
Sébastien Jean, le Vietnam, c'est la puissance de demain dans la région ?
La puissance de demain, je ne sais pas, mais c'est clairement, depuis quelques années, le pays le plus dynamique, en tout cas le pays de taille respectable, le plus dynamique dans le commerce international. Vraiment, il y a une explosion de l'activité au Vietnam, dont qui ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, elle a été notamment très fortement accélérée par les décisions des grandes entreprises coréennes de s'installer au Vietnam. Et ça, ça date de, je crois que les premières, c'était LG, je me demande si ce n'était pas en 2009, LG et Samsung ont énormément investi au Vietnam, mais c'est pas la seule explication, hein, mais ça a permis d'accélérer tout ça. Donc c'est assez spectaculaire. Bon, cette guerre commerciale, elle a fait beaucoup parler de découplage.
Sébastien Breton.
Non, j'interromps, mais en fait, au Vietnam, il y a des investissements chinois massifs suite à l'arrivée des Coréens. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, l'industrie manufacturière vietnamienne aujourd'hui a été extrêmement investie, développée et construite par les Chinois, en fait. Diaspora chinoise au Vietnam.
Sébastien Jean.
Aujourd'hui, on est dans une situation où, après, au fond, ce mandat Trump, il y a la crise du Covid, effectivement, mais il y a surtout, je crois, un fond qui s'est cristallisé d'une montée des tensions géopolitiques, d'une montée de la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui devient assez structurante dans les relations internationales et qui explique que, disons, qu'il y a une pression de fond pour prendre en compte, pour essayer de limiter son exposition à ces tensions. Et je pense que ça explique le fait qu'on parle beaucoup de découplage, de limiter la dépendance entre les États-Unis et la Chine. On en parle aux États-Unis, on en parle aussi en Chine. On constate qu'à court terme, c'est impossible parce qu'il y a un enchevêtrement beaucoup trop complexe, beaucoup trop étroit de l'activité pour qu'on puisse le démêler. Mais je pense qu'à long terme, partiellement seulement, pas complètement, mais partiellement, c'est aussi inévitable, justement, parce que le signal est donné et que les États et les entreprises veulent limiter leur dépendance et donc veulent diversifier leurs approvisionnements, comme l'a dit Sébastien Breton. Et du coup, ça stimule des investissements vers d'autres pays. Alors, ça prend forme petit à petit. C'est effectivement le Vietnam, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, un peu le Mexique. Et puis, une pression générale. Et ça va prendre des années pour se matérialiser complètement. Voilà, c'est pas quelque chose d'immédiat parce que ça demande des décisions d'investissement.
Alors, on reste en Asie. L'une des zones les plus sensibles du commerce mondial, c'est le détroit de Malacca. Il relie les océans Indien et Pacifique avec seulement 38 km de large dans sa zone la plus étroite, entre les côtes de l'Indonésie et de la Malaisie. Et il voit passer une bonne partie du trafic maritime qui vient de Chine et qui y va. Mais les pirates ou les brigands, comme on dit, sont nombreux, encore plus depuis la pandémie. Écoutez ce reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Gabriel Maréchaux à Kuala Lumpur.
The attack on oil tanker Stena Immortal in the Singapore Strait is the sixth.
Ce sont des eaux où les navires marchands n'ont jamais aimé s'éterniser. Dans l'obscurité de la nuit, entre le détroit de Malacca et de Singapour, la peur des pirates et des brigands n'est jamais loin. Et à Singapour, troisième plus grand port au monde, cette situation est l'objet de beaucoup d'attention, comme celle d'Éric Frécon, chercheur spécialisé sur la question à l'IRASEC.
Pour avoir interrogé des capitaines au long cours de la marine marchande, eux nous disaient, moi, quand j'arrive dans le détroit de Malacca, c'est pas compliqué, je ferme tout, vitesse maximum. Et le pire, c'est s'il y a une panne de nuit. D'un côté, vous avez Singapour, voire la Malaisie assez illuminée, mais de l'autre côté, c'est sombre. Puis c'est que de la mangrove, hein. On ne sait pas où la mer termine et commence. Donc là effectivement, ça peut être plus ennuyeux, une panne ou une attente, hein, parce que c'était ça aussi le problème avec le Covid et avec la crise, c'est souvent les attentes des bateaux.
Auteur de l'ouvrage de référence chez les pirates d'Indonésie, le chercheur a pu observer deux profils bien distincts parmi ceux qu'il a rencontrés.
Pirate des champs, pirate des villes, pour faire simple. Le pirate des champs, c'est un local. Lui, pour le coup, c'est un pêcheur. Alors, il profite de l'opportunité, c'est-à-dire pendant qu'il pêche, s'il voit passer un bateau lent, mal éclairé, il suffit d'une machette, un passe-montagne. Après, vous avez ceux dans les villes. Eux, ils sont pas forcément originaires de la région. C'est vous avez à Batam, Bintan, Karimun, des zones économiques exclusives. Et donc, vous avez eu un afflux massif de population de toutes les îles de l'Indonésie. Les types sont arrivés en espérant bosser dans des usines ou quoi au caisse. Et puis finalement, rien. Et là, c'est plus que du larcin, parce que ça peut être détourner une cargaison, siphonner du fuel, etc. Et donc, ça demande une logistique. Donc, il va falloir recruter ces pirates, mais aussi un acheteur, un autre équipage pour prendre en main le bateau une fois qu'il sera détourné.
Le capitaine de frégate Jérémy Bachelier est pour sa part officier de liaison auprès de l'Information Fusion Center de Singapour. Il note également des différents types de butins selon les zones géographiques. Certains se sont raréfiés à cause du coronavirus.
Il y a traditionnellement deux zones d'attaque, la partie ouest et la partie est. Ceux qui sont sur l'ouest attaquent essentiellement des remorqueurs et des barges, en général remplis de métal. Et donc c'est véritablement un trafic de métal suite au marché noir qui est animé par ces groupes. Et sur la partie est, on est vraiment sur le vol à l'étalage de petits matériels à bord du bateau. En 2020, il n'y a eu que des attaques qui ont eu lieu sur la partie est, excepté pour trois d'entre elles. Alors, on l'explique essentiellement par le prix du métal, puisque le prix du métal a chuté. Le marché noir n'était pas forcément très fructueux et donc ça a été mis en sommeil.
Ces îles indonésiennes, pour certaines très dépendantes des vacanciers singapouriens, ont inquiété l'organisation de surveillance auquel appartient le capitaine Bachelier, qui craignait que la précarité fasse naître des vocations.
Considérant cette baisse touristique, l'ensemble des membres de ce qu'on appelle le Malacca Strait Patrol, c'est-à-dire la Malaisie, l'Indonésie et Singapour, s'attendaient concrètement à ce qu'il y ait une hausse de l'activité de l'écantage dans les trois Singapour. Donc on prit des mesures à la fois d'augmentation du volume de patrouille dans le détroit de Singapour et ses approches, et on fait en sorte évidemment d'augmenter significativement, j'allais dire, la sensibilisation.
Aujourd'hui, les observateurs ne s'attendent pas à une baisse des activités de brigandage pour 2021 et le jeu du chat et de la souris entre pirates et autorités ne semble pas prêt de s'arrêter.
Un reportage signé Gabriel Maréchaux à Kuala Lumpur. Sébastien Breteau, est-ce que certains de vos déchargements que vous aviez inspectés ou que vous deviez inspecter ont mystérieusement disparu en passant le détroit de Malacca ?
Non, ça n'est pas arrivé. J'ai attendu beaucoup d'anecdotes de ce côté-là, mais non, ça n'est jamais arrivé. De toute façon, c'est anecdotique et je pense que ça sera sans commune mesure à ce qu'on a pu voir dans la Corne de l'Afrique, dont j'ai oublié le nom, il y a quelques années. Donc non, j'ai pas eu de conséquences de type. Alors, on a vu beaucoup de choses sur les mers, en particulier des sujets de travail des enfants sur les bateaux, sur les produits qui étaient sur la pêche, en fait, dans le détroit de Malacca. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais on n'a pas vu de conteneurs
qui a disparu,
mystérieusement. Attaqué ou qui ont disparu.
C'est un curieux ce phénomène, Sébastien Jean, alors que les pays d'Asie du Sud-Est, auxquels sont ajoutés la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, viennent d'intégrer une nouvelle zone de libre-échange, en quelque sorte, qui s'appelle le partenariat économique régional global. C'est la Chine qui accroît son influence commerciale.
Ça risque d'être en partie le résultat. Alors, l'accord en question, donc dans l'acronyme anglais, il s'appelle RCEP. C'est plutôt en fait une initiative des pays de l'ASEAN.
C'est eux qui ont l'Asie du Sud-Est, l'association des nations
de l'Asie du Sud-Est, absolument. Et c'est eux qui en ont été à l'origine et cet accord, il regroupe effectivement notamment la Chine, le Corée, le Japon aussi, l'Australie, la Nouvelle-Zélande également. Mais c'est vrai que la Chine, par son poids, par sa dynamique économique, forcément joue un rôle un peu d'attracteur dans cette affaire. Surtout que je pense que la logique sous-jacente à cet accord, c'est quand même essentiellement de faciliter l'intégration commerciale régionale, d'essayer de lever certains certains obstacles et de rendre plus facile tous les flux. Votre reportage montre d'ailleurs que même dans des régions comme ça où il y a une très grande intensité de circulation, il reste des problèmes,
des aléas,
effectivement. Tout n'est pas complètement sous contrôle. Et puis là, il y a, je pense aussi, un phénomène d'intégration régionale relativement classique. L'Asie est très en retard de ce point de vue-là. Hein, si on songe évidemment à l'Europe, mais même à l'Amérique, l'Asie est en retard parce que elle est beaucoup plus fragmentée, polarisée politiquement, c'est beaucoup plus complexe. Bon, qui plus est, c'est un espace aussi bien démographiquement que géographiquement beaucoup plus vaste.
Alors, Sébastien Breteau, vous, dans votre entreprise, vous n'êtes pas sujet aux pirates ou aux brigands, mais vous avez quand même noté un taux d'usines qui ont été qualifiés par vous de critiques beaucoup plus important que précédemment au cours de cette période de pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Concrètement, il y a eu un vent de panique chez les marques et les marques et les donneurs d'ordre américains et européens suite à la pandémie, quand les usines en Chine se sont fermées. Comme je l'expliquais, ils ont bougé leur source d'approvisionnement vers l'Asie du Sud-Est, et ça s'est fait de manière sans trop de vérification, très rapidement. Et on a constaté, nous, un doublement des usines qualifiées de critiques par rapport aux standards d'éthique et sociaux.
C'est-à-dire, concrètement,
une usine doit donner des conditions d'hygiène et de sécurité pour ses employés, doit respecter les heures de travail, payer les heures supplémentaires. Il y a tout un tas de critères éthiques et sociaux. Et nous, on a constaté qu'il y avait eu une montée, en particulier dans l'industrie qui produisait les fameux PPE, donc toutes les masques et tout ce qu'on avait besoin pour la pandémie. Les ouvriers se sont mis à travailler 16-18 heures par jour, non-stop, pas toujours payés. Et il y a eu des manquements graves au sujet, au problème d'éthique, d'éthique sociale. Et ça, on l'a constaté. Et quand, en fait, on change de l'usine, tous ces pays comme le Bangladesh, le Vietnam, le Cambodge, un peu le Pakistan aussi, sont bien en retard par rapport à la Chine dans le respect de ces standards.
C'est énorme.
On a constaté un doublement. Voilà.
Est-ce que le respect de ces normes, ça peut devenir, Sébastien Jean, de nouvelles barrières non tarifaires imposées, par exemple, par l'Europe ou par les États-Unis ?
Barrière non tarifaire, j'aime pas beaucoup le terme déjà parce que je trouve qu'il est mis un peu à toutes les sauces, mais c'est un débat de longue date et il y a une certaine tension entre la volonté de faire adopter effectivement ce qu'on peut considérer comme des normes fondamentales ou presque des droits de l'homme en termes de travail, et puis aussi des fois un calcul de la tentation de pousser très loin pour en faire un avantage concurrentiel, disons pour limiter la concurrence que nous font des pays plus pauvres. Donc il faut trouver le juste milieu, pour pas tomber non plus dans l'ingérence ou une sorte de néocolonialisme presque dans la façon d'imposer nos normes à ces pays. Mais il est évident qu'il y a des standards minimaux qui doivent être imposés, mais ça demande beaucoup une surveillance très complexe à mettre en œuvre.
Sébastien Breteau, le mot de la fin, très brièvement.
On participe beaucoup de ça. Il y a un processus d'éducation. Il ne faut pas croire que tous ces pays ont moins bien envie de traiter leurs enfants ou leurs salariés, mais dans des cas de crise extrême comme ça, il y a des millions de travailleurs qui ont perdu leur boulot et les usines ont une tendance à en profiter. Et donc, je pense qu'il y a un devoir, sans être colonialiste, mais il y a un devoir d'éducation. Et moi, ce que je peux constater sur le terrain, ça fait des années qu'on fait des audits sociaux dans les usines, c'est que la large majorité des propriétaires d'usines sont tout à fait réceptifs à l'application raisonnable de normes d'éthique et d'éthique concernant la manière dont ils traitent leurs employés. Et on y participe et on participe de cette vigilance.
Eh bien, c'est sur ce mot optimiste et d'espoir que se termine cette émission. Merci Sébastien Breteau, PDG et fondateur de Kima. Merci Sébastien Jean, directeur du CEPI, directeur de recherche à l'INRAE, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous retrouver sur l'application Pure Radio de RFI sur votre smartphone. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Bruno Faure à ce micro. Je vous retrouve dans 2 semaines.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
et la ville d'Enghien-les-Bains